jour en votre compagnie Salsa Bertin dans le libre journal éponyme. Nous allons vous emmener dans une deuxième partie au spectacle, mais pour l'heure, je vais vous donner des nouvelles du front. Et le front, en ce qui nous concerne, ce sera un front souverainiste. Le souverainisme, quels horizons, un avenir, point d'interrogation, et déjà, quel est son présent? Quelles sont ses perspectives? Et dans le studio virtuel, malheureusement, mes invités que je remercie, c'est Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour.
Merci d'être là pour évoquer tous ces sujets. Et mon chroniqueur de la chronique des mots à tiroir, auteur d'un livre sur les mots, la toxicologie du langage, qu'on trouve sur internet en tapant, c'est Ludovic Joubert. Et Ludovic Joubert, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par votre chronique. Vous nous avez préparé, concocté, cuisiné un petit mot et on va écouter ce mot doux ou pas. Et je mettrai en exergue de cette émission où nous allons réfléchir sur la notion de souveraineté en même temps que donner des nouvelles du front de Noam Chomsky. Dans le contexte actuel, ça me semblait nécessaire sur tous les points. L'une des leçons les plus claires de l'histoire, les droits ne sont pas simplement accordés, ils sont gagnés, ils se gagnent par l'effort et la lutte. Voilà. Alors à vous Ludovic Joubert, et je demande à Pierre-Yves Rougeron d'écouter cette chronique, comme ça s'il veut rebondir avant de se lancer, il le pourra, et ensuite on va lancer un son que reconnaîtra aisément mes deux compères, mais surtout vous Pierre-Yves, et on pourra tout de suite rebondir, on va rentrer dans le cœur du sujet. À vous la parole Ludovic Joubert.
Oui, bonjour Salsa et bonjour Pierre-Yves Rougeron. Alors l'époque n'est peut-être pas au mot doux, même s'il faut les promouvoir davantage, mais ça sera plutôt un mot dur aujourd'hui qui est toujours malheureusement d'actualité, c'est le mot scandale. Alors j'ai choisi ce mot, même si depuis 2020, il peut sembler avoir l'air d'une litote, c'est-à-dire le contraire d'une exagération décrivant ce que nous vivons au quotidien depuis lors. Emprunt du XIIe siècle au bas latin scandalum, qui signifie pierre d'achoppement, et aussi ce qui fait tomber dans le mal. Le latin, pour traduire l'hébreu, mixol, signifiant obstacle, ou ce qui fait trébucher, a repris le grec scandalon, qui signifie piège, et scandalé, qui désigne le trébuchet d'un piège où se trouve placé l'appât. J'ai été surpris que ce mot contienne la trace d'une chute, et il est vrai qu'on tombe toujours de haut. De manière figurée, au XVe et XVIe siècle, scandale signifie désordre, tumulte, avant de devenir affront, acte qui provoque la réprobation publique. La pierre de scandale était une pierre élevée devant le Capitole sur laquelle on faisait heurter à trois fois les banqueroutiers. À Q nu, orthographe ancienne, Q, C, U, nu, N, U, D. Le mot s'emploie aussi depuis le XVIIe siècle pour parler de l'effet démoralisant que provoquent les actes blâmables et démoralisants. Ils le sont d'ailleurs à plus d'un titre. Ils heurtent, dépriment, démoralisent donc et brouillent aussi les frontières de la morale traditionnelle entre le bien et le mal. Tout cela dans un contexte où le grand public est accoutumé, surtout ces dernières années, à être vexé, nargué, insulté, même physiquement humilié dans un grand test d'obéissance aux injonctions absurdes par le pouvoir et par les médias de grand chemin. Ainsi, quand l'antavirus récemment a pointé le bout de son nez, non sans qu'on apprenne au passage que « anta » signifie « tromperie » en hébreu, les experts médiatiques du Covid ont rempilé, certes, pour une brève saison. Un autre exemple au hasard, Yael Braun-Pivet, princesse aux petits pois qu'elle a dans la tête, mais aussi représentante de la République qui représente peut-être des intérêts situés au-dessus d'elle, a déclaré à propos de la succession, par exemple, que c'est fini, cet argent qui tombe du ciel. Cela venant de quelqu'un qui est grassement rémunéré par le régime qu'elle est censée servir. Et donc sans que cette déclaration scandaleuse lui vaille de complications. Face aux menaces de réquisition de biens et de personnes liées aux risques de guerre, aux promesses de guerre plutôt, que nous adresse l'Europe au nom de la paix, Le peuple, il est vrai, passablement groggy et pieds et mains liés face à l'arbitraire du pouvoir, face au refus de l'ouverture d'une commission d'enquête sur les ramifications françaises de l'affaire Epstein par la même Yael Braun-Pivet et le pantagruélique Gérard Larcher. Le peuple est tout aussi impuissant. Au-delà de toutes les questions qu'on peut se poser sur leur cause, les cachotteries autour du dossier Epstein sont aussi scandaleuses en ce qu'elles lèvent le voile, qui est l'étymologie d'apocalypse, lever du voile, hein, apocalypse, sur les causes d'un système de corruption généralisée nommé démocratie. Mal nommé, à moins que la combinaison de démos et kratos ne signifie pas pouvoir du peuple, mais pouvoir sur le peuple. Justement, le propre et la nature de ce pouvoir est de tout mal nommer. Cela ne nous empêchera pas de mal le qualifier, d'en prendre le risque. Dire que le pouvoir est scandaleusement corrompu ne revient-il pas à dire que l'eau est scandaleusement mouillée? Je laisse la question en suspens.
Merci Ludovic Joubert. Alors je pense que Pierre-Yves a entendu la chronique. Et puis qu'il va... alors, on va écouter ensuite un extrait d'un homme très courageux. Et Pierre-Yves va nous donner la réponse en moins d'une seconde, je pense. Et nous allons donc nous engouffrer sur le thème de la souveraineté. Mais là, je voulais entrer dans le dur avec un de ces fameux bon, morceaux, entre guillemets, de bravoure, qui est une forme de constatation. Une constatation que nous continuons. C'est un extrait qui a déjà 3 ans et la situation a bien empiré depuis lors.
Écoutez, on a perdu en 15 ans Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial de l'aluminium, Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie, Technip, un des leaders dans l'oil and gas, Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia, on était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat? Et on sort mon décret quand il y a Carrefour qui risque d'être acheté par Couche-Tard. Il faut se réveiller, là. Donc vous êtes une commission d'enquête sur la souveraineté. La souveraineté, ça a un sens. C'est que ça, c'est, si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot, parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. Monsieur Cron, il a touché, je crois, 13. Monsieur Lafont, 15. Monsieur Combe, 13. Voilà. C'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Ça fait partie de la question qu'il nous faut poser. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les dirigeants de ces entreprises.
Et voilà, Pierre-Yves Rougeron, donc président du cercle, créateur du cercle Aristote, dirigeant de la revue Perspective Libre, directeur de cette magnifique maison d'édition avec des auteurs absolument prodigieux qui éclairent à peu près sur tous les sujets, les maux du monde, mais aussi les ressorts géopolitiques. Alors on parlera peut-être, on mettra en lumière quelques ouvrages. Bon, vous avez reconnu cet extrait il y a 3 ans et depuis lors la situation a largement empiré et en 2025, alors il y a peut-être eu une petite décrue et encore en 2023, mais en 2022, 131 entreprises dites sensibles étaient passées sous capitaux étrangers, voilà, après évidemment bénédiction de l'État français. Et 2024, j'en parle pas. 2025, accélération des gros rachats stratégiques avec le retour des méga deals vers des fonds étrangers, américains, etc. Donc déjà, il a dit, c'était Arnaud Montebourg, hein, vous avez reconnu, et il a dit, la souveraineté a un sens. Quel est le sens pour vous de la souveraineté, vous qui êtes une des personnalités, Pierre-Yves Rougeron, de ce monde du souverainisme, quelle définition lui donnez-vous, quelle définition peut-on lui donner au sens large du terme?
La souveraineté, c'est quelque chose d'assez simple profondément. C'est la capacité endogène de se projeter dans un destin. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est ce qui vous permet d'être. Ce n'est pas la puissance, mais c'est la capacité d'être. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante, à le, disons, au fait que vous soyez respecté comme pays autonome. Il y a des pays souverains non puissants, il n'y a pas de pays puissants non souverains. C'est aussi simple que ça. Si vous avez cette capacité d'être, vous existez. Si vous ne l'avez pas, vous n'existez pas. C'est aussi simple que ça. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui va faire tout de suite comprendre la chose à nos auditeurs. Si nous revenions tous à l'école quelques secondes et que vous ouvriez un examen d'histoire et que l'enseignant, un peu pervers, vous posait la question suivante. La politique extérieure de l'Algérie de 1910 à 1920. Vous réagiriez comment ? Vous ne réagiriez pas, parce que l'Algérie, en tant qu'État autonome, n'existe pas à cette époque. C'est aussi simple que ça. Si je vous dis qu'avait comme politique publique la Syrie en 1900, vous diriez, il est complètement fou ce type-là. Il nous parle de pays qui n'existent pas encore, etc. Mais pourquoi ? Il y avait bien une terre qui s'appelle aujourd'hui la Syrie. Il y avait des gens qu'aujourd'hui on appelle des Syriens. Tout simplement parce que ces gens étaient des sujets. D'un droit qui était le droit de quelqu'un d'autre. À partir de ce moment-là, vous existez dans l'histoire ou vous n'existez pas. Il y a un peuple qui a rêvé de la souveraineté pendant 19 siècles et qui en a même d'ailleurs fait une formule récitée une fois par an. Est-ce que vous voyez lequel je veux parler, Salsa ? Si je vous dis l'an prochain à Jérusalem,
ah
ça
oui.
vous dit quelque
ah
chose ?
Ah bah oui, mais j'ose même pas dire son nom.
Bon, eh bien, vous voyez ? Si vous voulez, bah, la souveraineté, c'est ça.
Ouais.
C'est un joyau que, quand vous l'avez plus, parce que là, ce que vous avez entendu d'Arnaud Montebourg, c'était extraordinairement courageux de sa part. Mais c'est là où vous voyez que c'est un joyau quand on l'a plus. Et vous vous rendez compte qu'on l'a tellement perdu que Arnaud Montebourg a pu dire en commission d'enquête parlementaire, même si les commissions d'enquête parlementaire en Europe de l'Ouest sont de la farce, je vous l'accorde, ouais. Mais justement, parce que vous n'êtes pas en territoire américain, terre souveraine. On peut aimer ou pas la souveraineté des États-Unis, mais je vous déconseille de vendre un actif sensible américain. Je vous le déconseille hautement, mais vraiment hautement. Quant à vendre un actif sensible chinois, de toute façon, la plupart du temps, à l'instant T, vous n'allez pas vivre assez longtemps pour le regretter. Donc, là, en pleine commission d'enquête parlementaire, sans que ça fasse une vague, Salsa, Arnaud Montebourg a pu dire le prix de la trahison de la France, c'est 15 millions, ce qui ne fait pas cher la passe.
Entre 10 et 15. Oui.
Mais vous vous rendez compte que ça aurait fait un scandale n'importe où ailleurs ? Il n'y a que dans des pays européens qu'on peut dire ça. Moi qui vis de temps en temps en Asie orientale, je vous le dis tout de suite, c'est plus que 10 ou 15 hein, dans ces pays-là, parce que vu le prix que vous pouvez payer, oui. La prise de risque n'est pas suffisante. Là, c'est 10 ou 15 et on peut en parler. Est-ce qu'on se rend compte ? Il n'y a que moi que ça choque ? Enfin, vous vous rendez compte que devant une assemblée de parlementaires enfarinés, Arnaud Montebourg, qui n'est pas n'importe qui et pour qui beaucoup de ces gens ont un respect parce qu'il est l'homme qu'ils ne seront jamais, peut dire combien vaut la trahison de la France et personne ne s'émeut, personne n'a même été surpris. Je pense que même certains ont dû se dire « Ah ouais, quand même oh !»« Bah, moi, pour moins que ça, je le fais. » Mais, vous voyez ce que je veux dire, Salsa ? C'est qu'il n'y a que dans un pays qui est ravalé au rang de colonie de l'histoire que vous pouvez avoir en pleine commission d'enquête parlementaire quelqu'un qui met la grille des tarifs de la trahison de la France. Enfin, mettons-nous, allez, je ne vais pas dire sous De Gaulle, ce serait trop grand, Mais mettons-nous ne serait-ce que Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur, c'est un temps qu'on a connu tous les trois. On est d'accord. Hein, nous sommes d'accord. Et bien même là, c'était déjà encore infaisable. On n'en parlait pas aussi de manière aussi ouverte. Aujourd'hui, on aura la grille des tarifs, comme au restaurant.
Alors, ce prix de la trahison, c'est certain, dans un pays normal, il aurait un coût. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, pour qu'on continue à avancer avant de vraiment parler du souverainisme aujourd'hui, c'est qu'on rappelle quelques dates. Donc, 2005, parce qu'il faut connaître les traîtres. Si vous voulez, on ne lutte pas contre un... Moi, ce que je dis toujours aux auditeurs, c'est que j'en ai assez de dire qu'on combat un système. Vous voyez, il y a une petite fille qui est morte et c'est encore la faute du système. Non. C'est la faute de personnes qui sont en responsabilité, parce qu'on n'a jamais autant entendu ce terme, et qui sont aux responsabilités depuis plusieurs décennies, qui ne prennent pas leurs responsabilités ou qui organisent volontairement le chaos. Parce que là, il y a quand même aussi... Donc, il se trouve qu'on s'attaque toujours non pas à un système, mais à des individus qui représentent les systèmes. Sinon, on ne s'en sort jamais, parce que personne... ne paye jamais l'addition. Alors que si vous vous dites « Ah, mais je risque quand même, moi, de payer l'addition. » Voilà. Et bien, tout de suite, vous voyez, le jugement, le procureur, le juge, le flic, le politique, le haut fonctionnaire, etc. Il va se dire « Bon, j'ai trahi la France pour 15 millions, ça risque de chauffer pour mes fesses. Bon, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Si 15 millions, 10 millions, c'est quand même gagne petit. Il faut quand même le dire. » Bon, voilà. Donc, il faut nommer les traîtres. Alors, nous, on a un problème qui s'appelle... le Parlement européen. Il y a une espèce de dissonance et vous allez voir pourquoi. En 2005, le peuple français, après une campagne, c'est pas une campagne, c'est un battage médiatique, non seulement les médias, mais tout ce qu'il y a, tout l'establishment, tous les politiques, tout ça, bourre le crâne des Français, c'est du lavage de cerveau. Malgré tout, 55%, ce qui est absolument écrasant, disent non. Et il y a un homme qui va trahir comme peut-être jamais on a trahi la France. On est toujours en train de nous parler de Pétain, mais là quand même, cette trahison-là, eh ben, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Il va s'asseoir sur le vote démocratique. Et là, il va signer de son sceau la mort de la démocratie. Donc ça, c'est 2005. Et en 2025, on nous dit, mais l'Europe, c'est formidable. L'Europe, c'est l'économie. Ah, ça, c'est sûr, avec l'Europe, on a fait des économies. On a notre porte-monnaie qui est bien vidé. Et l'économie européenne, on se dit, mais ensemble, on est plus fort. Voilà. C'est pas ça, c'est ces nations rabougries, etc., les unes sur les autres. Vous voyez, l'Europe, c'est une belle réussite. L'économie européenne, elle est passée de combien en termes de pourcentage dans le monde entre 2005 et 2025 ?
Elle a perdu 17%.
Ouais, elle est passée de 30 à 17. C'est hallucinant. Donc, on nous dit en même temps, si vous voulez revenir au peuple, et moi, hier, j'étais avec un personnage payé par l'Europe dans une maison à Paris qui est le temple de l'Europe, et qui nous disait, encore hier, ah oui, mais il n'a pas dit nation rabougrie, mais vraiment, il avait invité un pays d'Europe que j'aime beaucoup, un petit pays de l'Est qui était là, avec des gens formidables d'ailleurs, et il disait, mais vraiment, vous voyez, c'est grâce à cette Europe que vous êtes là, qu'on peut se parler, en fait, comme si on ne s'était jamais parlé, comme si on ne s'était pas tous mariés. Moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, une princesse austro-hongroise, et je ne peux pas faire la généalogie de ma famille, mais enfin, l'Europe, je suis désolée, elle n'a pas existé avec eux. Donc, elle nous a appauvris et en même temps, ils nous disent, parce que ça, on l'a entendu le discours et ça, vous allez, après, je vous laisse la parole, ils nous disent que finalement, l'échec, alors c'est parce que nous sommes des nations et qu'il n'y a pas d'Europe politique. En fait, on n'est ou pas assez nations ou trop nations, ou enfin, c'est jamais de leur faute. Donc, et on n'a jamais autant parlé en même temps de souverainisme, avec une souveraineté alimentaire, moi qui suis spécialiste de l'alimentation, entre autres, eh ben, je peux vous dire qu'on n'a jamais été aussi peu souverain en matière alimentaire, avec une guerre contre le vivant, une vraie guerre contre le vivant, une vraie guerre contre les paysans, une vraie guerre contre notre autonomie sur tous les fronts, et on ose nous parler encore de souveraineté. Donc moi, je vous laisse la parole, parce que il y a une espèce de dissonance, de toute façon... Il y a trop de nations, il n'y a pas assez de nations, en fait, on a perdu sur tous les fronts. Et j'aimerais bien que sur l'aspect économique, vous insistiez un petit peu, parce que vous savez que les gens, il n'y a que ça qu'ils entendent.
Non mais, alors, c'est assez simple. Puis là, la lumière commence à descendre dans les étages les plus bas. La preuve, je voyais dans le Figaro, qui est quand même un des morceaux de presse les plus subventionnés, les plus médiocres, un article de M. Robin, qui est un de leurs économistes en chef, qui crache la patate chaude que les vrais spécialistes savent depuis 20 ans et disent depuis 20 ans, mais qui n'ont pas le droit de le dire dans le Figaro, qui est « La France, parce qu'elle est dans l'euro qui est une trappe à dette, sans dette, et pour que ces entreprises ne partent pas, est obligée de les subventionner. » Je rappelle que un des économistes qui avait été auditionné par François Hollande et par Emmanuel Macron, qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée, s'appelle Jacques Sapir, qu'il leur avait annoncé que le maintien dans l'euro, vu que l'euro est une faute économique à égard de nos entrepreneurs, eh bien, nous l'indemnisons. Pourquoi la France a des taux d'aide aux entreprises aussi élevés, qui d'ailleurs choquent les syndicats de salariés, à raison, mais, et qui choquent la plupart des vrais libéraux qu'il y a à cette antenne, je peux tout à fait le comprendre. Le problème, parce qu'un État n'a pas subventionné les entreprises privées, on est à peu près d'accord, or, pourquoi pas ? Mais à une condition, c'est que vous assainissiez le cadre économique pour que l'entrepreneur puisse bosser. Et l'assainir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire éviter qu'il soit en concurrence avec des gens qui ont des facilités par rapport à lui qui rendent la compétition infaisable et d'avoir un cadre avant tout monétaire qui permette à l'entreprise de survivre. Bon, là, on a une pseudo-monnaie, vu que l'euro n'est même pas une vraie monnaie, qui est bien trop haute pour l'identité économique de la France. C'est-à-dire, grosso modo, vous chaussez du 45, vous chaussez du 36, je vous donne des chaussures qui sont du 45. Et après, vous allez vous débrouiller, puisque c'est une taille unique pour tout le monde. Eh bien, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il dit ? C'est mal géré, je m'en vais. Vu que j'ai la liberté des capitaux. La liberté des capitaux, ça veut dire je prends mon argent à un endroit et je le mets à un autre. Peu importe qui a travaillé pour que j'ai le capital en question. Ça, c'est une des libertés clés de l'Union européenne. La liberté de « take the money and run ». Eh bien, le problème, c'est que l'entrepreneur qui reste, vous devez l'indemniser, vu que vous l'avez mis dans un cadre qui le spolie, vu que vous avez une monnaie qui ne lui permet pas d'exporter. C'est aussi simple que ça. Or, vous voyez, ça c'est le premier point. Donc déjà, vous n'avez pas de cadre pour vous développer, vous n'en avez plus. Deuxièmement, comme on vous en veut d'exister encore un petit peu, ils vous ont tout pris. Je rappelle que l'Union européenne, les compétences qu'elle n'a pas par les traités, elle les prend par les juges. D'accord ? Parce qu'un juge européen, ça a une fonction. Faire une union toujours plus étroite. Ça, c'est l'article clé de tous les traités européens, d'accord ? Donc, vous ne gagnez jamais contre eux. Là, le Front National vient de perdre dans un contentieux sur l'immigration, évidemment qu'il allait perdre. Il suffit d'avoir fait des bases de droit communautaire pour le comprendre. Vous ne gagnez jamais contre eux à un jeu dont ils maîtrisent toutes les règles et dont ils peuvent les changer pendant la partie. Je vais vous donner un exemple. L'Union européenne, dans ses statuts, ne peut pas s'endetter. Et depuis 2008, elle ne fait que ça. D'accord ? Elle ne fait que faire de la monnaie et faire de la blanchisserie.
Et ça avait c'est monté encore. Simple. Ça va encore monter, mais, la dette, là. Ils l'ont prévu, ils l'ont voté.
Mais ça ne peut que monter. Ça ne peut que monter. Pourquoi ? Pourquoi ça peut que monter ? Parce que l'Union européenne est à tu et à toi, vu qu'avant, on avait des banques publiques et on avait le circuit du trésor. Donc, on gérait la dette à partir de notre banque centrale. Basta. Aujourd'hui, vous êtes obligé de les traiter avec la totalité du monde financier qui est américano-centré. D'accord ? Et je vous le dis tout de suite, quand il y aura une dette commune européenne, et ce n'est pas pour rien que M. Draghi en est le champion, M. Draghi est l'employé de quelle entreprise historiquement ? M. Draghi est un ancien de GS, aussi appelé Goldman Sachs. Et qui va gérer la dette européenne quand il y en aura une, à votre avis ? Les banquiers européens qui sont quasiment tous des banquiers de second rang ? Non, des banques américaines. Et si vous voulez avoir une idée de qui va tenir vos dettes dans l'avenir, en tout cas à l'échelle des 27, je vous recommande de regarder la liste des SVT, des spécialistes en valeur du trésor, c'est-à-dire ceux qui dealent la dette française. vous avez deux tiers de banques américaines. C'est aussi simple que ça. L'Union européenne part d'un principe. Et vous allez voir le problème de logique, et je pense que ça n'échappera pas à mon devancier, dont j'ai beaucoup aimé la chronique, parce qu'elle était très logique. Nous sommes d'accord que les nations, c'est le mal. Et la France en particulier, Jean Monnet insiste beaucoup là-dessus. Jean Monnet n'est pas un antinationaliste. L'Amérique a le droit d'être une nation. Jean Monnet a une haine très particulière qui est franco-centrée. Mmh. D'accord ? Il suffit de le lire, enfin, de lire les ouvrages qu'on lui prête, parce qu'en fait, ils sont l'œuvre de Jean-Baptiste Durosel, et que Monnet est un homme qui n'écrit pas et qui a un mépris à la fois pour l'écriture et pour l'intellectualité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il déteste les intellos, et que de temps en temps, il en chapote un, mais c'est pas son truc. Or, mais il vise ce qu'on dit qu'il a écrit, d'accord ? Et il le dit très bien, l'Amérique est la grande nation. Le pays qui n'a pas le droit d'exister, c'est la France. On va être très clair, c'est assez obsessionnel chez le personnage, c'est l'une d'ailleurs des seules idées qu'il va garder toute sa vie. Or, le problème, c'est que si la nation, c'est le mal, on va garder l'hypothèse. Ça veut dire que, jusqu'à preuve du contraire, si vous prenez une collection de cul-de-jatte et d'infirmes, on est d'accord qu'à la fin, vous pouvez en mettre 27, vous pouvez en mettre 30, vous pouvez en mettre 50, vous n'aurez pas une équipe de Ligue 1, jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, sauf dans l'Union européenne. Parce que si vous collectivisez des choses mauvaises, je vous rappelle que les nations sont mauvaises, et des choses imparfaites et bancales, eh bien, vous obtenez des champions par la magie de l'Europe. On est d'accord ? C'est pris séparément, les nations sont mauvaises, mais la nation européenne, c'est bien. On est d'accord ? C'est ce qu'on vous dit. Voyez le problème de logique.
Eh oui.
On collectivise le mal, ça fait un bien. On collectivise des faiblesses, ça fait une force. Si vous voulez, ma fille de 11 ans ne tomberait pas dans des stratagèmes aussi grossiers. Si vous voulez. Et or, l'Union européenne repose uniquement là-dessus. Or, ça ne marche pas. La puissance en notre siècle ne repose ni sur la taille, sinon le Bangladesh serait un pays fort et la Corée, qui a 45 millions d'habitants, ne serait pas l'une des principales puissances de ce monde. Il ne repose certainement pas sur le fait d'additionner des choux des carottes, des pommes de terre et des navets. Ce qu'est l'Europe. C'était d'ailleurs la beauté de l'Europe moderne. C'était cette diversité de choses qui étaient non miscibles. Le problème, c'est que vous additionnez des choses qui n'ont pas de rapport et vous plaignez que ça fasse un être sans force. Mais ma chère Salza, vous qui êtes une grande littéraire, il y a un roman qui nous a mis en garde contre le fait de ne pas relier entre eux des bouts de cadavres. Ben c'est Mary Shelley.
Ben oui, Frankenstein, oui, c'est sûr. Oui.
Frankenstein. Eh bien, oui, résultat...
Ça peut être Frankenstein, en pérenne, oui.
Résultat, la plupart des pays asiatiques caracolent dans les classements au-dessus des Européens de plus en plus, et c'est tout à fait normal. C'est quoi le secret des puissances d'Asie ? C'est l'État développeur, ce qui permet la cohérence. Nous, on a choisi l'incohérence pour avoir un truc gros et gros, omnipotent, et qui en réalité est devenu impotent.
Impotent, oui, oui. Alors, oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que, à l'inverse, c'est-à-dire ceux aujourd'hui qu'on considère comme nos ennemis, fait ce que nous avions toujours fait lorsque, du temps où nous étions forts, c'est-à-dire on faisait nation ensemble, en fait, on était des nations qui avaient des relations, de coopération, et pendant ce temps-là, que font
et surtout,
en face
compétition, parce que l'émulation est très importante dans le phénomène de développement.
Une compétition fraternelle. Et puis, de temps en temps, on se mariait pour, justement, aplanir bien les relations, faisait des alliances, etc. Et bien, donc, il y a des gens qui ont tout compris en face de nous, et au lieu de leur tendre la main, comme avec par exemple la Russie ou la Chine, on se crispe et eux, ils vont faire un bloc, comme nous, on l'a toujours fait, et parce qu'ils ont tout compris, un bloc de nations, et qu'ils refont cette société de nations et de coopération. Voilà,
alors,
la Chine, la Russie, etc.
Attention, ils font de la coopération parce qu'ils ont l'équilibre westphalien de la force.
Il ne faut pas
l'oublier.
Oui.
Le problème, c'est que l'idée européenne pense qu'on va faire société en dévitalisant les gens.
Mais,
c'est-à-dire que comme on ne partage rien, on va partager la faiblesse. Bon, eh bien, quand vous partagez la faiblesse, vous obtiendrez la destruction.
Mais les bouts de cadavres, c'est ce que vous disiez, Pierre.
C'est le problème des bouts de cadavres. Or, si vous voulez, quand je vois les organisations internationales qui marchent, je pense à l'OTAS, je pense à l'ASEAN, ce sont vraiment des trucs très lestés. Hein. L'Europe n'est pas grand-chose à côté de ça. C'est-à-dire que vous allez dans des hémicycles internationaux où vous avez de chaque côté de la table la Russie, la Chine, les États-Unis. Enfin, là, vous avez du lourd. Et ils réussissent, en pure stratégie westphalienne, à faire avancer le monde. Le cas typique, c'est les BRICS. Enfin, si vous voulez, quand vous voyez ce que les BRICS arrivent à faire sans empiètement de souveraineté, que vous voyez ce que les Européens font, c'est-à-dire, enfin, je vous rappelle, ma chère, que la grande révolution de l'Union Européenne jusque-là, c'est les bouchons de bouteille accrochés à la bouteille pour laquelle la France paye 1 milliard d'amende. Parce que tout ce que Bruxelles fait se termine en amende sur qui ? Sur le contribuable français particulièrement, parce que c'est quand même le seul qui paye la musique sans jamais entendre un air à lui. Le contribuable allemand est aussi rincé, mais il est rincé différemment, c'est-à-dire que lui, on lui vend une puissance illusoire entre-temps, une puissance qui est tout à fait réelle.
Oui.
C'est-à-dire qu'en réalité, la haute Allemagne spolie la petite, mais ça, d'un côté, c'est toute leur histoire.
Ouais.
Donc, à chaque fois qu'ils font un Reich, ça se termine comme... Enfin, ça continue comme ça, et après, ça se termine mal. Donc, alors que les Français, c'est rincé.
Enfin, après, on paye, parce qu'il faut qu'on avance. Moi, j'ai des questions pour vous après sur le souverainisme aujourd'hui et les perspectives. Donc, il faut avancer un peu. Mais effectivement, on paye parce qu'on veut bien payer. Alors là, c'est la première question, vous allez y répondre. Est-ce qu'on pourrait ne pas payer ? Parce qu'effectivement, on est victime si on en vit aussi d'une certaine manière d'être victime.
Alors, c'est la stratégie de la désobéissance. Je vous le dis tout de suite, celle-là, je ne la recommande pas et je vais vous dire pourquoi.
D'accord.
Parce que comme l'Union européenne écrit votre droit à votre place, elle possède vos fonctionnaires de justice. Le juge de droit commun du droit européen, c'est le juge français de première instance, ou le juge italien de première instance, ou le juge espagnol de première instance. Donc, ils vont... Et ça a été voulu. Mon ami Guilain Benassa a écrit un ouvrage, à mon avis, définitif sur cette question. La notion de primauté du droit européen veut dire « je détruirai ta loi avec la complicité de tes fonctionnaires et à tes frais ». Tant que vous ne détruirez pas ça, c'est-à-dire que vous direz une chose simple, en France, il y a la Constitution française, la loi française, et tout le reste n'a pas vocation à exister ici. Point. Parce que la désobéissance, vous allez prendre un arrêté de désobéissance, disons, et le Conseil d'État l'aura annulé avant que l'encre soit sec. Donc, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la bonne stratégie. Si vous voulez, quand un serpent constricteur vous étrangle, ça ne sert à rien d'essayer de le chatouiller. Il faut le tuer et s'en débarrasser. C'est aussi simple que ça.
Oui, je suis d'accord. Hein. C'est d'ailleurs applicable pour beaucoup de choses. À un moment donné,
je comprends
faire place nette.
Pour éviter le débat technique, on aille vers la désobéissance. Mais je le dis tout de suite. Les eurocrates n'en ont pas peur parce qu'ils savent ce que je viens de vous dire.
Alors, il faut que les Français soient aussi conscients que c'est nous, les Français, qui finançons le Parlement européen.
Tout ceci se fait, contrairement à ce que M. Retailleau a dit de manière éhontée, tout ceci se fait à nos frais.
Bien sûr que c'est à nos frais, c'est nous qui finançons. Donc demain, on arrête de financer. Oui. Alors on nous dit, mais vous n'aurez plus la PAC, on ne va plus financer. On s'en fiche, puisque de toute façon, c'est nous. On donne plus d'argent qu'on en reçoit, mais on en donne beaucoup plus.
Quelqu'un vous dit, donne-moi 100 balles, vous lui donnez 100 balles, il vous rend 15 balles et il vous dit, dites-moi merci.
Bien sûr, c'est ça.
Parce que l'Union européenne, c'est ça.
Mais moi aussi, demain, vous êtes tous mes meilleurs amis. Tous les ans, vous me donnez 1 million, je vous en retraite 500 000, il n'y a pas de problème. Meilleur ami pour la vie. Voilà. Alors après, pourquoi on laisse faire? Alors aussi à l'intérieur, on a les ennemis de l'intérieur. Ça c'est quand même intéressant. Comment, oui. Maintenant, on revient vers la France, hein, Pierre-Yves, pour bien comprendre sûr, qui sont les ennemis de l'intérieur, comment ça fonctionne et comment on pourrait s'en sortir et qui dans le monde souverainiste qui. Voilà. Alors moi, je vais vous donner un exemple qui m'a quand même beaucoup choqué parce que j'avais envie, mais on n'a pas le temps, de passer toutes les entreprises qui n'arrêtent pas de passer sur les fonds européens ou du Bahreïn beaucoup. Bon, alors le Doliprane, c'est 2025, et puis après des choses gravissimes, LMB, Xelia, enfin bon, plein, mais enfin, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas, parce que c'est l'industrie pharmaceutique, c'est le spatial, c'est tout, c'est le, bon, bref, et l'aérospatial, et tout. Bref. Mais là, l'aluminium de Dunkerque, j'ai envie de prendre cet exemple, je ne sais pas pourquoi, l'aluminium de Dunkerque passe sous le pavillon de Bahreïn. Alors, on appelle ça, j'adore, la valorisation de 2,2 milliards. Mais ce n'est pas valorisant pour nous, hein, attention. Hein. C'est de la valorisation. Non, mais c'est. Alors, donc, c'est des accords sur fonds d'investissement américain avec American Industrial Partners, voilà, qui est propriétaire depuis 2021. On cède ça à l'industriel de Bahreïn et ça a été signé là, lundi. En marge du sommet Choose France, organisé où ? Mais à Versailles. Choose France, c'est choisir la France. Ça, c'est sûr. Tu as choisi la France parce que la France est à vendre, en fait. Voilà.
Ce que vous dites est extrêmement juste, Salsa. Ça me permet de flinguer au passage un mythe qui est atroce, qui est le mythe des IDE, investissement direct à l'étranger. Alors, vous avez parfois de vrais IDE, c'est-à-dire quelqu'un qui vient faire quelque chose chez vous. Ça existe. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas d'indicateur assez fin pour dire dans la part des IDE, et en réalité, Choose France, qu'est-ce que c'est ? C'est soi-disant un aimant à IDE. La plupart des IDE sont tout simplement du pillage. C'est-à-dire, j'arrive chez toi, je rachète une boîte en faillite, je prends ses brevets, je la vide, et je solde et je me tire.
Et je mets tout le monde au chômage et hop.
Point, voilà. Barre, ligne. Voilà. Et ça, la moitié de nos ministres de l'économie, qui sont quand même de gentils, la moitié est intéressée, l'autre partie est incompétente. Je vous laisse doser qui est qui, mais des qualités qui peuvent se cumuler. Or, vous dites que l'IDE est quelque chose de fondamental, c'est génial, ça veut dire que les gens aiment la France. Non, ça ne veut pas dire que les gens aiment la France, ça veut dire que dans le marché international, quand il y a une bête blessée, tout le monde va la bouffer. C'est aussi simple que ça. Vous avez voulu entrer dans ce qu'on a appelé la mondialisation. La mondialisation, c'est un mot foireux et fourre-tout pour désigner une guerre économique de haute intensité.
Eh oui.
Où tout le monde tire sur tout le monde, comme dans les vieux western spaghetti, vous aviez ce qu'on appelait la roulette mexicaine, quand tout le monde tire sur tout le monde. Eh bien, vous êtes dans une roulette mexicaine géante, mis à part que vous allez faire un duel dans le désert avec des pompes de ski. Bon, donc résultat, vous êtes mort. Et l'IDE, c'est ça, Choose France, c'est ça. C'est-à-dire, la France est à vendre, venez vous repaître, ça me permettra d'avoir de bons chiffres temporairement, de pouvoir les vendre politiquement, et qui sait, peut-être, de trouver une deuxième carrière, voire un ou deux mécènes sympathiques. Point, barre, ligne. Oui, le développement, ma chère, c'est quelque chose d'endogène.
C'est pas
dans
que
toute l'histoire du développement, les gens se développent parce qu'ils l'ont voulu et sur leur propre denier. D'accord ? C'est ça. Quelqu'un va venir vous donner du fric pour que vous vous redéveloppiez. Ça, c'est de la folie furieuse.
Il nous donne pas d'argent. On est vendu à la découpe et dépouillé et on nous laisse la carlingue désossée.
Je l'entends beaucoup trop peu.
Voilà. Donc,
et vous avez évidemment les spécialistes de vente à la découpe. Donc vous avez cité certains types de fonds dont c'est pas pour rien qu'on les appelle fonds vautours. Ça fait quoi un vautour ? Un vautour, ça se repaître de quoi ? Ça bouffe quoi ?
Ah oui, la ça chair bouffe, et ça vous laisse la carcasse.
La chair en putréfaction. Point barre. Donc, on a désarmé la France. L'image de la France dans l'Union européenne, c'est Gulliver enchaîné. C'est le géant enchaîné. Une fois que le géant est enchaîné, eh bien, vous allez, c'est d'ailleurs un supplice grec, vous avez un vautour qui vient lui bouffer le foie. C'est aussi simple que ça. Mis à part que, contrairement au supplice grec, notre foi ne sera pas éternelle. À un moment, la France sera trop faible. Si vous voulez, les organes ne repoussent pas, contrairement à la mythologie.
Ouais, ouais. Alors, donc, on a des politiques, mais aussi les hauts fonctionnaires. On a Bercy qui signe, on a quand même...
Et une partie de notre classe entrepreneuriale, ma
et
chère.
Aussi les pseudo-grands patrons qui sont une catastrophe pour la France. J'ai fait une émission de radio là-dessus. On avait pris l'exemple des ports, par des gens qui se croient tous, très intelligents.
C'est le camarade Martin qui a géré ça.
Exactement, ah, oui, que j'avais invité. On est aussi dirigé par des gens qui ont fait de pseudo grandes écoles et qui ont des capacités très limitées.
On leur a appris, un, que la mondialisation était bonne, deux, qu'il fallait la faciliter, trois, qu'elle allait, fluidifier tout et qu'eux seraient payés au degré de fluidification. Bon, oui, c'est-à-dire, grosso modo, on a fait des anticoagulants vivants.
Oui, mais enfin, ils voient bien les résultats.
C'est une coagulation d'énergie.
Quand tout le monde se développe, sauf vous, que tout le monde fait du plus 90% et que vous êtes à plus 5%, il y a quand même un problème.
Parce que, si vous voulez, n'oubliez pas, ma chère, que pour eux, ils ont leur patrie de substitution, c'est l'Union européenne.
Oui.
Ils ont leur peuple de substitution, c'est l'immigration. Ils ont leur religion de substitution, c'est le mondialisme. Tant qu'on n'aura pas compris, et le pire, c'est que c'est une vraie religion pour eux, c'est-à-dire c'est à la fois une idée et une rétrocommission. C'est-à-dire il y a le culte, il y a les deniers du culte. C'est que tant qu'on n'aura pas compris que ces gens-là ont, si vous voulez, c'est ce que j'ai dit chez mon ami Idriss Aberkane il n'y a pas longtemps, la tique ne trahit pas le chien. D'accord ? C'est qu'à un moment, il y a des gens qui vivent sur notre dos de notre affaiblissement. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, et avec beaucoup de courage, je tiens à vous en féliciter, c'est qu'à un moment, comme on disait du temps de l'ancienne Russie, chaque problème a un nom et aussi un prénom.
Eh oui. Alors, maintenant, en face, Pierre-Yves, toujours sur Radio Courtoisie, dans le libre journal de Salsa Bertin, avec Ludovic Joubert. Si vous avez une question, Ludovic, ou une réaction, vous le faites.
Non, mais j'ai bien aimé l'idée, la comparaison de l'Union européenne, je pense, de Café Pierre-Yves Rougeron, à propos des Kudjat et des. Ça me fait penser au handisport, effectivement.
Oui, c'est une grande compétition d'handisport, mais à part que, un peu formidable. Comme Orange Mécanique, on est obligé de la regarder.
Alors, en face, on a les souverainistes. Alors, le souverainisme, on s'est un peu expliqué ce que c'était, qui alerte, mais aussi propose de retrouver une souveraineté et donc une puissance, une liberté, une puissance, une meilleure vie pour tout le monde.
La souveraineté, la liberté nationale, c'est une seule et même notion.
Mais ils sont invisibilisés, donc déjà, y a-t-il des solutions contre cela ? Mais j'ai envie de dire aussi, le souverainisme, combien de divisions ? Les Français sont mécontents, mais le souverainisme, combien de divisions ? Pierre-Yves Rougeron.
Alors, si vous voulez, c'est très important parce qu'il faut, regarder la situation sur les deux points. C'est que nous, une partie de nos organisations et de nos chefs n'ont pas fait l'effort nécessaire pour pouvoir avoir une offre cohérente et unique, souvent pour des raisons, il faut être honnête, personnelles. C'est-à-dire... Je ne remets pas du tout en cause ni la pureté de leurs convictions, ni leur volonté d'en sortir le pays. C'est quasiment les seuls, j'ai 20 ans de vie politique derrière moi, à en avoir réellement l'envie. La seule chose, c'est qu'il faut bien comprendre le mental des chefs souverainistes par rapport aux chefs de politique traditionnelle. C'est-à-dire souvent, ce sont des hommes qui ont fondé des choses. Ils n'ont pas hérité d'eux. Ouais. Ils ne sont pas le fils ou la fille du fondateur d'eux. D'accord ? Ils n'ont pas une rente de système. Ils n'ont pas été 30 ans sénateurs socialistes avant de se découvrir révolutionnaires gauchistes à l'approche de la soixantaine, ce qui peut arriver à certains. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui ont le cuir épais, qui est le cuir des fondateurs, le cuir de celui qu'on a pris plein la figure, qui a bossé souvent plus que les autres. Et ce n'est pas pour rien, moi je suis également éditeur, que 90% de la production intellectuelle politique de qualité ces 30 dernières années est souverainiste. Vous nous effacez de l'histoire des 30 dernières années en France, la France ne produit pas grand-chose, à l'exception du système. Soyons très clairs. Mis à part une part résiduelle de l'extrême-gauche intellectuelle et une part encore plus résiduelle de l'extrême-droite intellectuelle. Donc, soyons très clairs, le système, d'autant plus, braque les feux sur nous. C'est-à-dire que nous sommes ceux qui ont le plus d'ennuis avec la police, le plus d'ennuis avec la répression d'État, ce qui est tout à fait normal. Hein, voyez la vie de quelqu'un comme Florian Philippot qui va au contact des manifs. Bon, il a des ennuis avec les flics tous les mois. voyez ce qu'on fait à quelqu'un comme Idrissa Berkane, voyez ce qu'on fait à quelqu'un comme Juan Branco. Donc, si vous voulez, je ne connais pas une famille de pensée qui ait de véritables ennuis, si vous voulez, je ne vous parle pas du fait de, d'avoir des problèmes avec, d'avoir des problèmes avec certaines parties de population à force d'en dire du mal et de se faire condamner. Mmh. Vous voyez, là, pour le coup, ce n'est pas des répressions d'État, ça. C'est des répressions de milices communautaires. Mais ça, nous, on prend la répression d'État. D'accord ? Oui.
Pierre-Yves, il reste 5 minutes voilà. pour parler de cet écosystème souverainiste ouais. aujourd'hui en France et des actions et des perspectives éventuellement ou des solutions.
Voilà. Très bien. Alors, si vous voulez, là encore, dans l'optique de la campagne électorale, nul ne sait combien de candidats souverainistes seront pour l'instant en lice. Il y a eu 2 candidatures annoncées. Et on attend une candidature, disons, en tout cas beaucoup attendent que un grand chef souverainiste revienne à ses premières amours, qui était la politique. On peut le nommer ici, hein, c'est Philippe de Villiers, et permette justement de recréer quelque chose, car il faut mettre en branle tout cet écosystème. Qui est quand même un écosystème assez remarquable. Je vais vous donner un exemple très précis dans le monde médiatique. Je rappelle que les 2/3 de la créativité des médias alternatifs et les 2/3 des médias alternatifs qui marchent viennent de la galaxie souverainiste, les 2/3 ou les 3/4, à 1 ou 2 exceptions près. Donc le problème, c'est que, soyons assez clairs, nous avons besoin d'un candidat unitaire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est rallié à l'européisme pour différentes raisons, et malheureusement, il n'y aura pas... L'autre Europe n'existe pas. Et non, l'autre Europe n'existera pas. Et d'ailleurs, le président Juncker, qui connaissait bien le coin, le disait, il n'y a pas de démocratie contre les traités. Il était président de la Commission. La Commission est gardienne des traités. C'est-à-dire, il n'y a pas de démocratie contre moi. Point. Et donc... Ils rempliront votre vie d'immigrés s'ils le veulent, ils vous ruineront s'ils le veulent, et le fait d'être souverainiste, c'est de ne pas vouloir vivre dans la main de ces gens.
Alors, voilà. Certes, un mot de la gauche souverainiste, existe-t-elle encore ? On a un peu des
Alors,
doutes.
Elle produit encore énormément d'analyses de qualité. Elle est dans un vide politique à cause, entre autres, du fait qu'Arnaud Montebourg préfère sauver des emplois en les créant.
Oui, s'occuper des abeilles, ce en quoi il a tout à fait raison. Mais
alors, il a créé 14 entreprises en 5 ans.
Non, mais c'est extraordinaire. Donc, moi, j'aime beaucoup Arnaud Montebourg. Donc, de toute façon,
qu'on me donne un équivalent. Hein, le problème, c'est qu'il est, comment dire, il est... dans cette absence, beaucoup ont cru à tort que Jean-Luc Mélenchon avait compris cette problématique, mais il y a préféré une stratégie de rente, tiers-mondiste à l'usage interne. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça.
Oui, et puis intellectuellement, il n'y a personne autour de Jean-Luc Mélenchon qui est brillant, malgré tout.
Il y avait de très bonnes équipes, mais justement, il a décidé... Pour donner à ses identitaires, à lui, la primauté, il a décidé de se délester des équipes redoutables qui étaient les siennes du temps de Kouzmanovitch. Mmh. Et d'ailleurs, d'un point de vue d'état-major, Mélenchon s'est mutilé.
Ah, c'est très dommage.
Aujourd'hui,
hein.
Aujourd'hui ça l'handicape énormément. Hein.
Mmh. Ah ben oui, donc, c'est sûr que là, il est...
Le problème, c'est que, voilà, toute cette expertise n'est pas perdue. Des gens comme François Coq, comme Kouzmanovitch, comme d'autres, ne sont pas du tout perdus, et donc ils continuent à faire valoir le brio de leurs analyses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez, il y aura toujours, comme productrice de cadres alternatifs, la gauche souverainiste se posera toujours là. C'est-à-dire qu'elle ne formera certainement pas de candidats dans l'avenir, peut-être pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle formera des cadres capables de tenir une politique. Et ça, il n'y a pas 40 écoles politiques en France capables de former une élite de substitution. Il n'y en a pas qu'un.
Mais ils auront besoin de chefs de file quand même, hein, qui ressortent, puisque bah, Mélenchon ne peut plus compter sur lui.
Mais ça, d'un côté, c'est au camp national d'en secréter. C'est au camp national de secréter, aussi de secréter des gens qui tiennent un peu la route.
Oui, mais quand on pense camp national, alors attention à ce que vous dites, parce que moi, quand on pense camp national, les gens pensent tous tout de suite Rassemblement national. Alors moi, je préfère le dire tout de suite, le Rassemblement national n'est plus du tout souverainiste, hein, qu'on soit bien clair. Ils sont contre...
Non, mais si vous voulez, le Front national, le Front national ne veut plus avoir... de lien particulier ni avec la nation ni avec le nationalisme.
Mais voilà,
le problème, c'est que le nationalisme français, ça existe.
Oui.
Voilà, le nationalisme français, ça existe. Il y a des millions de Français qui aiment encore leur pays. Et à un moment, je refuse de croire, et les lois des mathématiques m'appuient, qu'il n'y ait pas 1% de mecs d'exception dans toute cette masse. Je refuse d'y croire.
Alors, pour terminer, on va peut-être renvoyer les gens vers, par exemple, une journée du livre. On peut rencontrer des auteurs et des intellectuels pour vraiment nourrir toute la réflexion. Par exemple, le 27 ou le 28
le
juin.
Le
27 juin
à partir
Paris.
À Paris, c'est 18 passages du bail. C'est à côté de la gare de l'Est, juste à côté de la gare de l'Est. Et c'est à partir de midi, nous vous y attendons nombreux.
Voilà, et donc là, on peut rencontrer des auteurs pour discuter. Voilà, donc sur la partie intellectuelle, c'est important de se former.
Près d'une quarantaine d'auteurs, oui.
Voilà, donc c'est quand même important. Et puis, aller sur le Cercle Aristote. Alors, on voit beaucoup
Aristote.fr,
sur YouTube, beaucoup. Il y a les émissions, les interviews, et puis surtout les livres, Perspectives Libres. Alors, Perspectives Libres, on peut s'abonner à la revue.
La dernière est sur guerre et géopolitique.
Voilà, et donc à chaque fois il y a un thème différent. Alors voilà, très très nourri. Il y avait moi un livre de chez vous, je sais plus. Voilà, que je voulais recommander, mais maintenant on est pris. Ah oui, Les Destructeurs. Moi j'avais bien, je voulais.
Jean-Louis Zambert.
Ah oui, oui, oui. Parce que là, c'est un regard très particulier et on comprend beaucoup beaucoup de choses avec ce livre. Voilà. Voilà. Donc, j'espère qu'on vous retrouvera parce que là, quand même, avec cette perspective, sur ce mauvais jeu de mots, potentiel, j'ai envie de dire, d'élection présidentielle l'année prochaine. Potentiel, hein, parce qu'on sait, voilà, certains n'ont pas tout à fait envie de quitter ce temple de la République qu'est l'Élysée. Mais en tout cas, on va avoir besoin de faire des points réguliers. Et donc, en attendant, les gens peuvent suivre l'actualité peut-être de Philippot, de Asselineau, de Dupont-Aignan,
de Dupont-Aignan.
Voilà, suivre leurs actualités, tout simplement.
Voilà, si vous voulez, pour l'instant, et de se préparer à une campagne qui va être quand même très, très, très particulière et où j'espère que nous arriverons à apporter un peu de nouveauté.
Et il faut prêcher autour de soi, absolument, partout dans le tissu français. Alors, vous savez, on va, dans la deuxième partie d'émission, on va parler de spectacle et de ce Festival of d'Avignon que je porte, que je défends tous les ans. Et il y a beaucoup d'artistes qui nourrissent de véritables réflexions. Et vous allez voir, il y en a une à travers la guerre de Troie, elle vous fait réfléchir. Une autre, vous allez voir, c'est... c'est sur le fanatisme, la corruption, la terreur modérée, la terreur moderne, pardon, avec les technologies, l'idéologie, avec un 93 de Victor Hugo revisité, ça vient d'intéressant. Et puis une rencontre avec Snowden, voilà. Je trouve que c'est chouette d'avoir porté à Avignon, par exemple, la figure de Snowden, c'est qui nous parle de la solitude du lanceur d'alerte, voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci, Pierre-Yves Rougeron.
Merci. Et à vous, ma chère Salsa. À très vite.
À très vite.
Et à bientôt.
À bientôt à tous. Et Ludovic, merci pour la belle chronique et merci d'être là avec cette oreille attentive. Et à bientôt.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Oui, la liberté, ça n'a pas de prix. Et la liberté artistique, c'est le Festival Off d'Avignon. On vous y invite tout au mois de juillet. Parce que c'est son, avec le théâtre, avec le spectacle, on peut faire réfléchir, on peut s'évader aussi, hein, dans le monde qui est souvent quand même, où on remarque quand même une certaine sinistrose. Et on va parler du bris, on va se retrouver un jour ou l'autre et peut-être danser, enfin, peut-être pleurer avec Crystal Clear, ou encore rencontrer Snowden. Tout d'abord, j'ai Clara Jouvard-Lacoste. Bonjour. Bonjour Clara.
Bonjour.
Vous, c'est la première pièce, c'est Hubris. Alors Hubris, ça dit tout. On est plongé dans nos grands mythes fondateurs tout de suite, qui ont vraiment forgé notre civilisation, notamment française, méditerranéenne. Et là, Hubris, ça va nous parler de la guerre de Troie et la guerre de Troie actuelle. Et pourquoi ce thème, pourquoi avez-vous revisité ce thème pour nous parler d'aujourd'hui ?
Eh ben, c'est parce que quand j'ai créé Hubris, je venais de lire un roman qui s'appelait Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. Et j'avais été profondément touchée par le récit de voir toute la guerre de Troie par les yeux de Patrocle. Et redécouvrir le mythe m'a donné envie d'écrire dessus. Et donc, j'ai fait mes petites recherches. Et en allant de recherche en recherche, j'ai commencé à écrire Hubris et à écrire autour de ces cinq personnages, donc Achille, Patrocle et surtout les femmes qui sont briséistes et c'est Chryséis.
Et vous avez voulu montrer une guerre de Troie actuelle ?
Tout à fait. En fait, au plateau, on n'a pas le conflit gréco-troyen. On a vraiment un zoom sur l'humanité de ces cinq personnages et on découvre toute la conséquence de l'orgueil des puissants sur les personnages, sur leur humanité. Et on voit juste des personnages qui font des choix avec ce qui leur arrive pour éviter de souffrir ou comment ils réagissent à ce qui se passe pour eux.
Oui, oui, oui. Alors, il y a un thème aussi qui est important, c'est-à-dire que la trahison, celui de la trahison.
Oui, oui, dans Hubris, il y a en fait deux personnages, deux sœurs qui sont unies sont deux sœurs qui se sont choisies, elles ne sont pas sœurs de sang, Chryséis qui est interprétée par Léa Michelot et Briséis qui est interprétée par moi-même. Et l'une est donnée à Achille, l'autre est donnée à Agamemnon, elles ont le même destin au début, mais pas la même voie, et l'une va décider de prendre le pardon, et l'autre, donc Chryséis, la vengeance, et il y a une certaine trahison entre les deux sœurs qui se passe, et c'est un thème très central dans la pièce.
Voilà, parce que dans la guerre de Troie, il y a une trahison, et cette trahison née d'une déception, elle va avoir des conséquences sur toute une population, en fait, voilà. Tandis que là, c'est plutôt remis en perspective dans l'histoire de deux sœurs, le destin de deux sœurs.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, il y a combien de comédiens sur scène ?
Cinq, on est cinq. Il y a trois filles et deux garçons.
Trois filles et deux garçons. Et vous, qu'est-ce que vous avez marqué dans la guerre de Troie ? Vous l'aviez lu, vous aviez apprécié cette œuvre et...
Eh bien, je dirais que, en fait, c'est un mythe que tout le monde connaît et qui est très peu représenté, je trouve, dans les œuvres d'aujourd'hui. C'est très souvent l'Odyssée dont on entend parler. Et je trouvais ça très intéressant de s'attaquer à quelque chose qu'on voit peu, mais que tout le monde connaît. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser ce mythe-là pour parler d'aujourd'hui. Même si à l'origine, quand j'ai écrit sur l'Iliade, je me rendais pas compte que j'écrivais vraiment sur l'Iliade. J'ai juste pris l'Iliade comme un prétexte pour parler d'un récit profondément humain avant que ce soit un récit politique.
Ah oui. Et quel serait le... Qu'est-ce qu'en retire le public quand il va voir ce genre de spectacle, puisque l'idée, c'est de nourrir quand même une réflexion politique.
C'est de nourrir une réflexion politique.
Au sens noble, hein, pas de la politique politicienne, je veux dire du politique. C'est... Hein, voilà.
C'est en fait, moi, à travers ce spectacle, ce que je voulais, c'était d'ouvrir une piste de réflexion sur ce qui se passe. C'est pas imposer une vision, c'est vraiment ouvrir une piste de réflexion. C'est le public lui-même qui a fait le lien avec aujourd'hui, avant même que je ne le fasse, moi, à l'écriture. Et ils en ressortent très souvent surpris, parce qu'ils s'attendent pas du tout à ça. Quand on parle de l'Iliade, ils s'attendent surtout à un... très souvent à des préjugés du théâtre très classique, quelque chose un peu soit poussiéreux, soit désuet. Et là, ils se rendent compte que pas du tout. Nous, on a vraiment mis un coup de pied dans tout ça et on a contemporanisé le mythe pour vraiment que ce soit actuel, autant dans la mise en scène que dans les musiques, que dans le jeu des acteurs. Et donc, ils s'en trouvent très surpris. Et puis, il y en a qui sont très touchés parce qu'on parle aussi de plusieurs thèmes qui sont à leur paroxysme. Il y a une mère dans Tétis, dans Hubris, pardon, qui s'appelle Tétis. Et c'est jusqu'où une mère peut aller pour sauver son enfant de la mort. C'est l'orgueil d'Achille, c'est l'humanité de Patrocle. Et donc, c'est en fait un récit très humain qui parle d'aujourd'hui et qui parle de nous, à travers juste un mythe mondialement connu.
Eh bien, écoutez, en tout cas, merci. Et alors, peut-être les dates, le lieu sont importants parce que
eh bien, on
faut réserver,
joue
hein, je pense.
Tout à fait. Il faut réserver. On joue tout au long du Festival d'Avignon aux Espaces Roseau Teinturier en salle 1 à 14h55 et on a une relâche le jeudi. On a déjà fait Avignon l'année dernière et on avait fait quasiment complet sur tout le festival. Et donc, on a très hâte de revenir.
Bravo, bravo. Alors, merci Clara pour Hubris. Voilà. Alors, maintenant, on va changer de quartier, on va changer de pièce et on va parler avec Stéphanie Roche. Bonjour Stéphanie Roche, merci d'être là. Alors, vous êtes déjà tous à Avignon, plus ou moins, hein, enfin, ou bientôt, oui. Vous êtes tous arrivés à Avignon.
Ça arrive.
Vous êtes en plein dans la répétition et ça commence, alors la date exacte,
le 4 juillet.
Le 4 juillet, hein, donc déjà un petit mois avant, là, tout le monde est déjà dans les, voilà, hein, dans les starting blocks.
Dans la communication, dans tout.
Ouais, ouais, vous êtes déjà en pleine répétition les uns et les autres, dès les premiers jours, là, c'est incroyable. Un jour ou l'autre, vous, c'est Sabor Life is Rhythm.
Exactement, on produit deux pièces pour Avignon cette année, un jour ou l'autre, du spectacle musical, et Sabor Life is Rhythm, qui est vraiment aussi un spectacle musical, mais plus claquette.
Avec de la danse très très joyeuse, exactement. Avec cinq instruments, quatre danseurs, donc un peu de joie dans un monde qui est quand même un peu difficile et compliqué actuellement. Et il paraît qu'il y a des danseurs très reconnus
mondialement. C'est vraiment là on a vraiment les meilleurs danseurs de claquettes, mais c'est pas que ça, on va pas parler que de claquettes, parce qu'en fait eux ce qui prônent, ce qu'ils veulent dire, c'est que la saveur de la vie n'est rien sans le rythme. Et qu'à chaque fois, tout au long du spectacle, eh bien, on va traverser des moments, on va traverser des émotions, toujours à travers le rythme. Et à la fin, tout le monde se lève pour aller danser, pour chanter. Et c'est vrai que c'est vraiment une union. D'ailleurs, ce qu'il dit, hein, qu'en fait, il y a quatre choses importantes, c'est de bien manger, de bien dormir, de donner de l'amour et de mettre de la saveur dans sa vie, en tout cas de suivre ses rêves. Et c'est vraiment ce qu'ils nous font passer pendant 1h15.
Il parle un peu ?
Oui, ça parle un petit peu. Alors après, on a 5 nationalités différentes. On a des Mexicains, un Français, une Anglaise, un Espagnol, un Italien. Donc, ça parle un tout petit peu, mais c'est beaucoup sur... j'essaye de parler un petit peu français, c'est très charmant, mais c'est vrai que là, c'est surtout...
Le langage du corps.
À travers le jeu, voilà, ouais. À travers le jeu, à travers la musique, ils vont faire partager leur culture.
Ah oui, et donc c'est une belle troupe, hein, en fait, pendant le festival, avec toutes ces nationalités.
Et ça va être leur premier festival d'Avignon. Sur les 5, il y en a qu'une qui a déjà fait le festival sur un autre spectacle, mais pour tous les autres, c'est la première fois qu'ils vont découvrir Avignon. Donc c'est vrai qu'il y a un peu et l'excitation, et ils savent pas trop ce qui va se passer. Donc c'est vrai que, voilà. Mais c'est un spectacle qui tourne déjà un petit peu, qui connaît un immense succès, donc on sait que ça va marcher, et voilà, on sait que ça va donner de la joie à tout le public qui va se déplacer nous voir.
Avignon, c'est très joyeux. Hein. C'est ouais. Déjà, on voit Avignon tel qu'on le voit plus beaucoup, parce que malheureusement, les villes françaises baissent aussi. Voilà. Ouais. On s'y sent plus aussi bien qu'avant, même qu'il y a encore 10 ou 15 ans, partout, hein, mais bon. Vivement l'année prochaine. Mais en tout cas, on retrouve Avignon. Et il y a une joie, tout le monde se parle, on rencontre, on bien sûr, on va d'un spectacle à l'autre, c'est très amusant, on marche d'Avignon, on parle d'un spectacle à l'autre, et puis on se parle, on se retrouve à la terrasse des cafés. Enfin,
oui, on fait la parade, on rencontre beaucoup de personnes, et l'objectif vraiment, c'est de se dire qu'on est tous là, et qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on donne de l'amour aux gens, et que les gens nous donnent de l'amour en venant nous voir. Mais il faut vraiment un maximum donner la pêche au public, en fait.
Ouais, et c'est vraiment une ambiance très, très particulière pour cela. Un mot de un jour ou l'autre, avant de se quitter?
Oui. Alors, un jour ou l'autre, c'est du théâtre musical. Alors, on est 4 filles sur scène. On va parler d'amour. C'est la salle d'attente de l'amour où 3 femmes sont là depuis un petit moment parce qu'elles attendent un petit peu. Voilà, est-ce que leur numéro va être tiré au sort pour aller vivre des histoires d'amour? Et puis, bon, non, il n'y a rien trop qui se passe. Elles sont là, elles ont leurs petites habitudes. Et il y a Julie qui va être fraîche célibataire, qui va arriver, qui va franchir la porte et qui va un petit peu bouleverser ce trio. Et à travers un jukebox de chansons françaises, on va se raconter un petit peu nos histoires drôles, moins drôles, et on va surtout partager avec humour et tendresse ce spectacle à multiples visages au féminin.
Alors, où sont les deux spectacles? Dans des endroits différents?
Non, justement, nous, on s'est dit, tiens, on va prendre le même théâtre. Donc, on est au Théâtre Notre-Dame. Sabor Lafiche Juizum est à 14h30 et Un jour ou l'autre est à 17h. Comme ça, hop, on peut enchaîner les deux, pratiquement.
Ah, et tous les jours?
Tous les jours, sauf le mercredi.
Ah, sauf le mercredi, toute la durée du festival. Hein.
Exactement.
Dès le 5 juillet, 4, vous êtes déjà le 4, enfin dès le 4.
Du 4 au 25 juillet.
D'accord.
Donc, ne ratez pas ces deux spectacles qui sont vraiment une petite bulle de bonheur, d'amour dans ce monde de brut.
Oui.
Mais voilà.
Eh bien, merci beaucoup donc pour ces deux pièces, Stéphanie Roche, et bon festival. Et maintenant, on va verser quelques larmes peut-être avec Crystal Clear et Christophe Paris. Bonjour Christophe Paris. Ah, il n'est pas là. Alors, s'il n'est pas là, eh ben, à ce moment-là, on va s'engouffrer avec un intervenant qui lui présente deux pièces. Alors, deux pièces qui me touchent, parce que pour moi, ce sont des sujets fondamentaux. C'est Sylvain Bastero. Vous étiez là?
Sylvain Bastonero.
Ah, Bastonero. Bastonero.
C'est pas grave.
Oui, donc j'ai mangé une syllabe, c'est fou, quoi. Je suis un peu comme les Anglais, là. Voilà. Alors, vous avez deux pièces aussi au Festival d'Avignon, off, bien sûr. Vous n'êtes pas pour la première fois au festival non plus.
Si, je suis pour la première fois au Festival d'Avignon.
Vous, personnellement, vous êtes au festival pour la première fois. D'accord.
En tant qu'artiste, après en tant que festivalier, j'ai souvent été, mais
comme
en tant qu'artiste.
Ah oui. Ouais, alors donc c'est des triples premières. Alors
bon. Okay.
Alors il y a deux pièces. Il y a une pièce dont j'ai parlé. Je vais parler de la plus entre guillemets récente dans l'histoire, qui rappellera un peu ce que j'ai dit en début d'émission, la rencontre avec Snowden, ça s'appelle tout simplement Rencontre avec Snowden. L'homme donc dont on sait on le connaît, le lanceur d'alerte qui a révélé le système de surveillance de masse de la NSA. Et j'ai trouvé ça quand même très original de le mettre sur scène au festival comme une pièce de théâtre, et en fait c'est la rencontre avec cet homme. Alors déjà, pourquoi, comment, voilà.
Alors oui, tout à fait. Alors Edward Snowden, juste pour bien rappeler, en 2013 il avait révélé le système de surveillance de masse de la NSA alors qu'il travaillait pour la NSA, donc c'était un lanceur d'alerte. Pourquoi? Alors, pour de multiples raisons, mais notamment parce qu'on avait envie de mettre sur scène une pièce qui défend la démocratie et le principe de tout simplement de faire participer le peuple à la décision politique, puisqu'en fait, lui, c'est ce qu'il a dénoncé surtout. Comme je l'ai dit tout le temps, il n'était pas contre le système de surveillance en tant que tel. Et ce qu'il, lui, a dénoncé, c'est le fait que tout ça a été mis en place par le gouvernement américain dans le dos des gens, sans leur demander leur avis. Et moi, je trouve par ailleurs le parcours de cet homme absolument admirable, puisqu'en fait, il faisait partie de tout ça. Il lui a fallu énormément de courage pour révéler tout ça. Et il a fait une sorte de, entre guillemets, de suicide en plaquant 100% de sa vie, y compris sa femme, sa famille, etc., pour ce qu'il considérait comme un idéal de justice. Et c'est une personne qui, je trouve, extrêmement inspirante par les temps qui courent.
Ouais. C'est-à-dire qu'il a dépassé son confort pour, oui, pour un idéal, un combattant des temps modernes, un
Exactement,
vrai
et
combattant. Alors là, c'est quand même la surveillance de masse, c'est autre chose que simplement une surveillance pour une sécurité intérieure, antiterroriste, etc. Là, on est dans complètement autre chose qui est de l'ordre de la. Qui rejoint un peu la soumission du peuple, en fait. Hein. C'est quand même ce système de surveillance, c'est pas que bienveillant. D'ailleurs, on voit qu'on n'a jamais été aussi surveillé et on n'a jamais autant vécu dans le chaos, en vérité.
Tout à fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que lui, en fait, ce qu'il a compris, entre guillemets, c'est que sous couvert de bons sentiments sécuritaires, on va dire, on met en place des contrôles systématiques et qui ne sont pas ciblés, qui ne sont pas mandatés par une décision de justice pour l'ensemble de la population. Alors toujours pareil, sous couvert de, voilà, c'est pour votre bien, c'est pour votre sécurité. Et donc lui, justement, c'est ce qu'il a voulu dénoncer, c'est ce qu'était cette surveillance de masse qui a été surtout accrue à la suite des attentats du 11 septembre 2001, qui ont servi un petit peu aux États-Unis, mais partout dans le monde, de toute façon, de prétexte, entre guillemets, pour le dire clairement et un peu trivialement, pour fliquer les gens. Voilà.
Ouais,
Et
c'est
donc
ça.
lui, c'est ça qu'il a voulu justement dénoncer.
Et vous, pourquoi vous avez complètement inventé la pièce ou au sein de la troupe ou de la production, y en a-t-il qui tout simplement l'auraient rencontré directement ou indirectement?
Alors, effectivement, cette rencontre, elle est imaginée dans ma tête. En fait, j'ai vu un reportage sur Snowden qui a été réalisé par la réalisatrice Flore Vasseur, qui est une réalisatrice plutôt militante également sur ces sujets-là, qui l'a rencontrée. Et moi, j'ai tout simplement imaginé ce que pouvait être cette rencontre-là, puisqu'ils ont fait un interview en 2017. À Moscou. Lui, il l'a reçu dans une chambre d'hôtel parce il est complètement paranoïaque, justement, parce qu'il a peur d'être écouté partout. Donc, il avait trouvé un lieu un petit peu sécurisé. Et en fait, quand on s'intéresse également à Flore, j'ai un petit peu regardé. Et en fait, ce qui est assez intéressant chez ces deux personnages, c'est qu'ils ont assisté tous les deux aux attentats du 11 septembre 2001. Bon, Snowden à la télé, mais elle en direct. Et de ce traumatisme-là, s'en est suivi un vrai questionnement. Ils ont pris des voies très divergentes pour revenir et se rencontrer 15 ans plus tard dans cette chambre d'hôtel. Et par contre, tout ça part de cet événement extrêmement violent qui, par ailleurs, politiquement, sert également, comme je le disais, pour tout gouvernement confondu, hein, c'est pas une question de droite ou de gauche, hein, mais également de prétexte pour mettre en place ce système de surveillance de masse. Et c'était intéressant de se rendre compte que Flore, également de son côté, elle a vu ça, ça lui a changé sa vie, mais c'était très progressif, tandis que Snowden, lui, s'est engagé dans l'armée, dans un élan très patriotique. Bon, et puis il en est revenu, et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tout part du même point.
Ah oui, ouais. Et vous n'avez pas cherché à les rencontrer ni l'un ni l'autre, hein, final. C'est
Si,
compliqué.
si, j'ai la chance de connaître bien Flore qui est venue voir
Ah.
la pièce. Alors malheureusement, Snowden ne peut pas venir en France.
Eh oui, alors moi, ça vaut mieux pas, d'ailleurs, parce que bon.
Il serait extradé tout de
Ah bah
suite aux États-Unis.
c'est une
Voilà.
terre américaine aujourd'hui, donc disons-le,
Tout à fait.
franchement.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est un des trucs qu'on met aussi en avant, c'est que la France n'a pas souhaité, à l'époque c'était François Hollande. Et Macron a fait la même chose, ils n'ont pas proposé effectivement comment dire, d'asile à Edward Snowden, justement, effectivement, comme vous le dites, c'est une terre américaine, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et par contre, oui, Flore Vasseur, je la connais très bien, elle sera là également au Festival d'Avignon, elle va assister à pas mal de représentations, on a peut-être prévu également de la faire participer sous certains aspects. Donc si, elle fait vraiment partie de l'histoire en tant que soutien de la troupe, mais aussi en tant que personnage. Et on lui donne également peut-être quelques passages également qui ne peuvent être que plus vrais, ça peut pas être plus vrai que nature, là, pour le
C'est
coup.
formidable ça. Non mais vraiment c'est formidable. Et
Et
quelle
oui.
chance de même de pouvoir la rencontrer. Et en fait, c'est un peu un hommage à ceux qui osent dire non. Hein. Donc depuis, il y a des gens qui ont dit non. Il n'y a pas que des lanceurs d'alerte. Vous parlez de la solitude du lanceur d'alerte. Parce que, en fait, souvent, on lutte pour des gens, finalement, qui vont vous malmener, en fait, parce que, par lâcheté, par cette espèce de foule toujours manipulée, manipulable, etc. Donc, à la fois, vous haranguez les foules en disant « mais arrêtez d'être naïf », et de l'autre, vous montrez cette solitude du lanceur d'alerte qui se sacrifie pour une population qui est même pas toujours tout à fait capable d'être reconnaissante.
Alors oui, avec quand même une réserve, c'est que ce qu'on veut raconter absolument, c'est son parcours exceptionnel, dans le sens où cette personne-là était tout à fait isolée, comme vous le dites, avait cette espèce de dilemme permanent de partager ce qu'elle ressentait, enfin, ce qu'il ressentait avec sa femme. Pour autant, il n'en a jamais parlé parce qu'il ne voulait pas en faire une complice du point de vue de la loi. Par contre, nous, ce que je veux avant tout, c'est raconter une histoire. J'ai vraiment essayé de ne pas... je ne souhaite vraiment pas, à travers cette pièce, culpabiliser les gens. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que, pour le coup, je trouve assez... on fait du théâtre, ça peut être politique, sans non plus prendre à partie les gens et vraiment, comment dirais-je, culpabiliser même le public ou les citoyens. Vous voyez ce que je veux dire ? On veut raconter cette histoire, les gens, ça les touche avant tout pour l'humanité des personnages, mais également effectivement pour le fond, qui fait énormément écho avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà, on est de plus en plus fliqués, d'ailleurs c'est de moins en moins caché, c'est de plus en plus assumé. Mais c'est vrai que nous, on porte ce sujet-là, et on essaye en tout cas de le porter, je trouve, intelligemment, dans le sens où on ne veut pas... on ne veut pas surtout culpabiliser les spectateurs. Parce que c'est vraiment pas le but, pour le coup, je trouve. Après, les gens feront ce qu'ils veulent après. Nous, on espère les sensibiliser au maximum, bien sûr.
Ouais. Et puis après, vous avez une autre pièce qui est 93. Alors ça, c'est une reprise de la pièce de vue. Vous reprenez le texte et vous brodez autour du texte de Victor Hugo, la pièce de 93. Et là, ça va être sur un autre thème, alors actualisé, sur la violence, en fait, la terreur, le fanatisme, la corruption, toutes choses qu'on a vécues aussi pendant la Révolution française, et dont on n'est toujours pas sorti d'ailleurs.
Absolument, et qu'on voit peut-être même revenir, c'est ce qui a aussi motivé cette création. Alors, il y a quand même un petit peu un lien entre les deux pièces, même si au préalable, on n'a pas forcément l'impression qu'il y en a, mais c'est quand même, on projette vraiment une société ultra contrôlante, renversée par un pouvoir que nous on appelait la société des vivants, dont on présume qu'il s'agit d'un mouvement, on va dire, d'extrême gauche, qui renverse une république qui est devenue très corrompue, etc. Enfin bref, et dans le roman de Victor Hugo du 93, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est ça qui est assez intéressant. Il parle de cette guerre, il parle de la guerre de Vendée qui a eu lieu en 1793, donc ça c'est le roman de base. Nous, ce qu'on a fait, on l'a projeté en 2093. Bon, déjà, on l'a adapté en pièce de théâtre, puisque c'est un roman à la base, donc c'est quand même énormément de boulot. Et on a voulu le projeter en dystopie dans le futur pour permettre au texte d'origine, avec tout le respect qu'on a évidemment pour Victor Hugo, qui est un roman exceptionnel, je conseille vraiment à tout le monde de le lire, on a voulu aussi lui donner un peu de fraîcheur en projetant une Révolution française dystopique, dans laquelle on retrouve évidemment l'intrigue de base, on trouve aussi Robespierre, la guillotine, etc., mais avec une touche plus moderne, aussi bien dans le lien au niveau des personnages, mais également dans la violence, dans le système de contrôle de la société qui est incarné. Il y a une IA en fait dans la pièce qui manipule les gens, qui les contrôle, etc. Et on a voulu aussi broder un petit peu cette thématique.
Qu'est-ce que serait la terreur, mais moderne en fait, hein, la terreur avec toutes les nouvelles technologies, donc une terreur décuplée par les technologies, avec une idéologie martelée sans cesse, hein, parce que avec tous les moyens numériques, etc., avec un fond de corruption, de fanatisme, etc., qui, tout ce qu'on a vécu pendant la Révolution, c'est vrai que la Révolution française, en quelques années, En quelques années, elle a fait plus que de 10 siècles de condamnation des sorcières et de l'Inquisition, quoi. Donc, c'est inouï. En peu de temps, on a eu une saignée absolument inouïe, quoi. Donc, la France, c'est pas qu'un pays et un pays calme, et effectivement, reprendre ce genre de texte, étudier aussi les guerres de Vendée, de la Chouannerie, etc., les événements de 93, qui ont été épouvantables. Les révolutionnaires qui ont voulu revenir en arrière, qui se sont fait couper la tête, enfin, qui ont voulu. Donc, il faut. C'est vrai que pour comprendre comment la sauvagerie se déclenche, c'est intéressant de le reprendre et que l'âme humaine n'a pas changé et que les moyens technologiques, en revanche, eux, et que ça peut être encore plus redoutable.
Bien sûr.
Donc, c'était après... une nécessaire réflexion que vous avez menée là, oui.
Tout à fait. Et après, le fond du roman, que encore une fois, je conseille énormément, en plus de notre pièce, bien sûr, effectivement, c'est on a des personnages qu'on appellerait aujourd'hui radicalisés, qui incarnent chacun un pan de la révolution ou de la contre-révolution, et qui sont tous liés personnellement par des liens d'amitié, de famille, d'amour, etc. Et ces personnes-là vont s'affronter. Et ce qu'on suit tout au long de la pièce, c'est comment... malgré une société hyper radicalisée avec une grosse inspiration de 1984 d'Orwell, comment ces personnes-là vont finalement dépasser leur idéologie et revenir vers leur humanité. Et c'est vraiment ce que voulait montrer Victor Hugo, évidemment en étant pro-révolution pour, dans son cas. Lui, ce qu'il voulait montrer, c'était que en fait, on n'était pas noir et blanc, pas de bien ou de mal.
Alors, je vois qu'il reste que quelques minutes, on va passer à votre camarade. Vous, c'est le nom du théâtre ? Le
Alors,
nom du théâtre.
Rencontre avec Snowden, c'est à la Factory, à la Salle Tomasi, à 14h40, tous les jours, sauf le jeudi où on est en relâche. Ouais. Et 93, c'est à 17h55, au théâtre de l'Adresse, avec les relâches les mercredis.
Merci, merci beaucoup, Sylvain Bastonero. Et maintenant, Christophe Paris avec Crystal Clear. Alors, vous, complètement autre chose. On part dans l'univers d'un homme qui va peu à peu perdre la vue, c'est ça? Et on va parler de handicap et de perte de vue et des défis que va devoir relever cet homme. Et c'est beau parce qu'on va parler du handicap dans une société où on va de plus en plus stigmatiser les personnes handicapées comme des poids avec cette épouvantable loi sur le suicide assisté plutôt que l'aide et la main tendue. Et les personnes handicapées vont se sentir de plus en plus fragilisées d'ailleurs, hein, et voire en danger. Et je trouve que c'est beau de mener cette réflexion, Christophe Paris, de le... Voilà.
Merci de votre accueil et de l'intérêt que vous portez à ce sujet-là. Effectivement, Crystal Clear, c'est une pièce qui part d'un drame amoureux, avec en toile de fond le sujet de la cécité et de la malvoyance, qui touche aujourd'hui 1,7 million de personnes en France. C'est à peu près 3% de la population française. Et ce qui est vraiment intéressant, vous parliez d'exclusion, de plus en plus aggravé avec le contexte qu'on connaît. Et en fait, dans le théâtre, en réalité, c'est encore plus important parce qu'il y a très, très peu de pièces de théâtre qui parlent de ce sujet, mais surtout qui intègrent l'audio-description à la pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'un malvoyant qui vient au théâtre ou au cinéma, il doit être équipé numériquement ou il doit être accompagné par quelqu'un, par des associations qui sont engagées à ce sujet-là. Et donc, nous, on a pris le parti pris de parler du sujet, mais en plus d'intégrer l'audio description au jeu des comédiens. Ce qui fait que le non-voyant ou le malvoyant vient au théâtre comme un voyant. Et on a mis en miroir, donc ça vient d'une idée du metteur en scène Thierry Harcourt, qui a fait un travail d'orfèvre sur le sujet. Et en fait, il a mis en miroir la place des voyants, où les voyants sont mis au même niveau que les non-voyants, parce que le décor est réduit à du scotch sur le plateau, et donc on doit faire le travail d'imaginaire que les non-voyants font.
Et vous, c'était un thème qui vous était cher
Oui, c'est un thème que... En effet, moi, le projet est né d'une rencontre avec certains des comédiens que je connais de par notre activité dans le milieu du théâtre, par le metteur en scène que je sais par ailleurs, mais familialement parlant, c'est un sujet qui nous touche aussi parce que mère ophtalmo et puis des accointances avec le milieu de la vision. Voilà. Et donc, c'est un projet qui est soutenu par toutes les grandes institutions de ce milieu. L'Institut de la Vision de Paris, qui est un peu la Rolls-Royce de la recherche sur la vision dans le monde. La Fédération des jeunes aveugles de France, le campus Louis Braille à Paris. Et qui nous ont tous dit, ouais, c'est exceptionnel et c'est la première fois qu'on voit ce type de projet au théâtre.
Ah oui, oui, c'est bien. Et c'est la première. Donc, c'est vraiment une première à Avignon pour vous avec ce projet.
Exactement, c'est une création 2026.
Alors, il y a une question que j'aurais dû poser à vos camarades, d'ailleurs, à vos confrères, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des pièces que l'on pourra voir à Paris ?
Oui, on l'espère.
À Paris ou ailleurs, hein, je dis Paris, mais c'est parce que, bon, il y a une grande vie théâtrale à Paris, c'est encore même très combattu, hein, faut dire, par la mairie de Paris, par l'ancienne maire, probablement, parce qu'on peut beaucoup de salles souffrent de la politique des transports à Paris, enfin bref, des loyers qui sont... ce ne sont pas les loyers des particuliers qui devraient être encadrés drastiquement, mais surtout les loyers des boutiques, et tout ça, parce que il y a beaucoup de petites boutiques, beaucoup de salles de spectacle qui ferment. Oui. Voilà. Donc, le nom de la salle, parce qu'il faut se quitter.
Alors, le théâtre, ça sera le théâtre de l'Oriflamme, et ça joue à 16h05 tous les jours, relâche le jeudi.
Eh bien, merci beaucoup, un grand, grand merci à vous, et bon Festival of d'Avignon, chers auditeurs, et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Salsa Bertin, émission préenregistrée le 5 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie, samedi 6 juin, de midi à 13h30, et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.